Radio Grand Ciel présente Tournepage, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Patrick Grigy. Au micro, Christiane Blain. Aujourd'hui, je reçois Patrick Auguet, un percheron qui, après HEC et sa licence en droit, a travaillé pour l'Union européenne. Il a également exercé des mandats publics, municipal, départemental, régional, puis à l'Assemblée nationale, où il a siégé à la délégation pour les affaires européennes. Il exerce de nombreuses activités associatives, et il est également écrivain. Son ouvrage dont nous avons parlé à Radio Grand Ciel, Paul Deschanel, Au-delà de la chute du train, et le dernier ouvrage, 1914-1918, Les relations complexes entre les pouvoirs politiques et les militaires. Avec les actes du colloque du 3 octobre 2015 à Nogent-le-Rotrou, et cet ouvrage a été publié par les Amis du Perche. Patrick Auguet, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors dans cet ouvrage, vous montrez tout ce que la démarche parlementaire a apporté à notre pays pour lui permettre de surmonter finalement l'épreuve. Alors, sujet vous tient à cœur, puisque vous faites de nombreuses conférences. Peut-être pouvez-vous d'abord nous dire quel rôle va jouer le Parlement dans cette guerre, parce que normalement on parle des militaires, mais là le Parlement va jouer quand même un rôle très important.
Alors en effet, si je me suis intéressé plus particulièrement à ce sujet, c'est à la suite du livre dont vous avez parlé sur Paul Deschanel, parce qu'il faut quand même se rappeler que Paul Deschanel, qui a été député d'Eure-et-Loir pendant 35 ans, puis sénateur d'Eure-et-Loir pendant près de 2 ans, eh bien Paul Deschanel a présidé la Chambre des députés pendant toute la durée de la guerre. Et donc il a eu un rôle extrêmement important pour faire en sorte que les parlementaires soient partie prenante dans les débats qui étaient nécessaires pour juger de ce qu'était la politique de défense des gouvernements et la stratégie militaire adoptée par le grand état-major. Et c'est donc parce que j'avais constaté que les parlementaires à l'Assemblée nationale d'une part, et d'ailleurs au Sénat également, où se trouvait Clémenceau, président de commission, et qui avait aussi joué un rôle important pour faire connaître les positions qui étaient les siennes. Et c'est pour approfondir ce sujet que je me suis penché sur la complexité des relations entre les politiques et les militaires. Alors pourquoi cette complexité ? Eh bien parce que, en effet, au début de la guerre, tout un chacun pensait que cette guerre allait être très courte et qu'on allait très rapidement obtenir des résultats victorieux et que nos soldats allaient rentrer chez eux pour les fêtes de Noël. Et puis malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme cela.
D'ailleurs, c'est ce que vous écrivez au début de l'ouvrage. En 1914, on n'a absolument pas prévu une guerre telle qu'elle s'est finalement déroulée. En effet, politiques comme militaires pensent en général la guerre à venir comme la précédente. Et c'est ça, exactement.
Voilà. Donc il y avait une impréparation, finalement, à la guerre, et qui d'ailleurs s'est manifestée très rapidement, puisque 3 semaines après le début de cette guerre, en une seule journée, dans une offensive qui malheureusement a été dramatique, pour nos troupes, il y a eu plus de 20 000 morts français. Donc on s'est rendu compte très vite que cette impréparation avait des conséquences considérables. Alors il est vrai que le fait de la victoire de la Marne, qui ont empêché les Allemands de venir jusqu'à Paris, ont peut-être occulté pendant quelque temps ces insuffisances, mais au fur et à mesure que dans le courant de l'année 2015 puis 2016, les résultats des offensives menées par le grand état-major n'étaient pas à la mesure des espoirs qui avaient pu être fondés sur eux, eh bien les politiques se sont à nouveau saisis de ce dossier, du conflit tel qu'il se déroulait, et les parlementaires ont eu un rôle très important en ce domaine. Dès le début de 1915, d'ailleurs, Paul Deschanel avait dit que c'était plus que jamais le rôle des parlementaires que de se prononcer sur les conditions dans lesquelles la politique de défense, c'est-à-dire celle du gouvernement, et la politique des militaires, c'est-à-dire les stratégies employées, eh bien, devaient être passées au crible, en quelque sorte, de la critique parlementaire lorsque celle-ci avait matière à s'exercer. Et c'est ainsi que je me suis préoccupé de savoir comment les parlementaires avaient pu accéder progressivement aux informations qui leur étaient nécessaires pour apprécier la situation.
Oui.
Alors, il y avait deux particularités. Donc, il y avait le travail en commission. Ça, c'était la façon traditionnelle pour eux de travailler. Mais le gouvernement ne leur donnait des informations que lorsqu'ils les avaient, d'abord eux-mêmes, alors que l'état-major avait tendance à pratiquer un peu la censure, y compris vis-à-vis du gouvernement. Et puis ensuite, eh bien, il était exclu pour le gouvernement d'entrer dans un débat sur la stratégie militaire avec les parlementaires. Donc il y a eu un bras de fer, en quelque sorte, qui s'est exercé pendant un certain nombre de mois. Et au fur et à mesure que la situation militaire aboutissait à une absence de résultats sur le terrain et à des conditions humaines absolument dramatiques en raison du nombre des morts et des blessés qui étaient à décompter sur le théâtre d'opération, les parlementaires ont obtenu du gouvernement de pouvoir traiter à la fois des problèmes de la politique de défense, c'est-à-dire les moyens d'armement, la politique de santé, comment faisait-on pour rapatrier les blessés, etc.
Parce que ça, c'était vraiment pas
c'était
étudié.
C'était pas du tout préparé.
Pas, voilà.
Donc on était vraiment... Et le nombre de morts qui sont... De blessés qui sont morts au cours des transports, parce que les moyens de transport n'étaient pas adaptés, était dramatique. Donc lorsque les parlementaires ont eu connaissance par des témoignages divers, par le fait qu'un certain nombre d'entre eux allaient sur le front pour combattre et revenaient ensuite siéger dans l'hémicycle, ont obtenu de la part du gouvernement, d'une part, de pouvoir se réunir en séance plénière, mais en comité secret, pour ne pas donner évidemment d'informations critiques à l'ennemi, et de pouvoir se prononcer également, non seulement sur la politique du gouvernement en matière de moyens de défense ou moyens logistiques, mais également sur la stratégie suivie par les militaires. Et c'est ainsi, par exemple, qu'après la bataille de Verdun, et en dépit du fait qu'on pouvait considérer qu'il s'agissait d'une victoire, c'est-à-dire finalement d'empêcher les Allemands de gagner la victoire de Verdun, mais au prix de très nombreux morts sur le terrain, les parlementaires ont obtenu du président du Conseil de l'époque, M. Briand, la démission du général Joffre et la nomination d'un autre chef d'état-major qui n'a pas fait ses preuves non plus puisqu'il s'agissait du général Nivelle. Et après, parce qu'effectivement il fallait arrêter ce type d'offensive, la nomination du général Pétain et un peu plus tard, la mise en orbite, si je puis dire, gouvernementale de Georges Clemenceau qui a repris en main à ce moment-là, à la fois les conditions internes et les conditions externes du combat.
Oui. Alors, effectivement, je peux lire ce passage, justement, où on parle de Georges Clemenceau, c'est à la page 81. « La difficulté entre l'Allemagne et nous est celle-ci. C'est que l'Allemagne croit que la logique de sa victoire est dans sa domination et que nous ne croyons pas que la logique de notre défaite soit dans la facilité. Nous sommes pacifiques, mais nous ne sommes pas soumis. » Si on nous impose la guerre, on nous trouvera. » Ainsi parlait Georges Clemenceau à la tribune du Sénat le 10 février 1912. Donc, vous voyez que déjà, effectivement, ce que vous dites, c'est que Georges Clemenceau est prêt vraiment à se battre et ne pas attendre que tout soit perdu.
Et en effet, et d'ailleurs, un des historiens, puisque les actes du colloque ont eu lieu, le colloque a eu lieu effectivement avec un certain nombre d'historiens qui, dans ce livre, apportent également des compléments à ce que fut ce débat du colloque, l'historien qui parle de Clemenceau, Jean Garrigue, insiste sur le fait que Clemenceau avait encore à l'esprit la victoire de l'an 2, si vous voulez, de la Révolution. Et il pensait qu'effectivement, si la nation tout entière était à l'appui de ces militaires, on pourrait arriver à des résultats tout à fait positifs. Et c'est ainsi qu'il a ressaisi la situation intérieure, alors que l'Union sacrée venait effectivement de connaître sa fin, puisque une partie des parlementaires s'étaient révélés partisans plutôt d'une paix plutôt que de la poursuite de la guerre. Clemenceau a ressaisi la situation intérieure, a ressaisi la situation militaire en faisant nommer un généralissime en la personne du maréchal Foch des armées alliées pour permettre à l'ensemble de ces armées de faire effectivement ce qu'il fallait pour conquérir finalement les territoires que les Allemands occupaient et pour arriver finalement à la victoire en novembre 1918. Donc vous voyez que effectivement les politiques dans ce conflit ont progressivement repris la main sur les militaires à partir du moment où on s'est rendu compte que la stratégie suivie dans la première phase, n'était pas satisfaisante et qu'il fallait effectivement changer de politique. C'est ce qui a été fait par le général Pétain et le maréchal Foch à la suite, effectivement, des impulsions données par Georges Clemenceau.
Oui, d'ailleurs, vous écrivez « Clemenceau exerce à partir de 1915 une double présidence exceptionnelle, celle des deux grandes commissions de l'armée et des affaires étrangères de la Chambre haute, dont les pouvoirs sont exceptionnellement prorogés pendant toute la durée du conflit, avant que leur existence ne soit définitivement pérennisée en 1921. » Donc, effectivement, il travaille sur les deux tableaux, si je puis dire.
Voilà. Il a d'abord été parlementaire au Sénat.
Oui, c'est ça.
Il a donc bien analysé les insuffisances de ce qui se passait, et ça jusqu'en 1917. Et à partir du moment où la situation a nécessité que soient reprises en main la situation intérieure et la situation extérieure, et que Poincaré a décidé effectivement de faire appel à cette personnalité extrêmement forte, mais qui avait beaucoup réfléchi sur les conditions dans lesquelles se produisait la guerre, de par sa position au Sénat, eh bien, en effet, il a été à même, en prenant d'ailleurs la responsabilité du ministère de la guerre,
oui,
lui-même, en tant que président bien du sûr, Conseil, mais... il était aussi ministre de la guerre, et il a fait en sorte, en modifiant le haut commandement et en donnant des moyens différents aux militaires qu'il avait désignés, eh bien, de reprendre l'offensive et de mener nos troupes
à la victoire. C'est ainsi qu'on l'a appelé le père la victoire.
Alors c'est ainsi qu'on l'a appelé le père la victoire, et je crois que c'est à juste titre, effectivement. Alors il n'a pas été le seul,
non,
le maréchal Foch et les militaires ont... Parce que ce livre ne tend pas à dénigrer les militaires. Il s'agit simplement de dire qu'il y avait des analyses qui divergeaient et que les parlementaires, en l'occurrence, à l'appui du gouvernement, ont fait en sorte que ces analyses soient rectifiées pour arriver à des résultats plus satisfaisants.
Eh bien, un grand merci Patrick Auguet. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pourrez nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr. Merci Patrick Auguet. À bientôt
merci
pour un
à
autre
vous.
Livre.